RFI.
Village de Sibata 2, à l'orée de la forêt de Ziama.
Grand reportage.
Cette émission est une rediffusion.
Avec l'équipe de suivi des éléphants.
C'est ça.
Aujourd'hui, Grand Reportage vous emmène en Guinée forestière, aux confins du pays, à plus d'un millier de kilomètres de la capitale Conakry. Non loin du Libéria et de la Côte d'Ivoire se trouve la forêt de Ziama, qui abrite les derniers spécimens d'éléphants de la région. Le Sili, comme on le nomme en langue locale, a presque disparu. Sur la piste des derniers Sili, un grand reportage de Carole Valade et Raphaël Kraft.
Alors là, on va pénétrer dans la forêt.
Dans la forêt, on suit cette trace, mais on ne parle pas. On va tout doucement, on observe.
Est-ce qu'il y a des instructions particulières, des recommandations particulières lorsqu'on est face à un éléphant?
Oui, il y a des recommandations.
C'est-à-dire?
S'il est face à nous, il faut rester toujours soudé. Mais dès qu'il y a un qui se déplace, il pense qu'on veut l'attaquer son petit. Donc il va offenser.
Merci beaucoup, allons-y.
Nous marchons à travers l'épaisse végétation dans les pas des gardes forestiers.
Bon, on va s'asseoir, échanger un peu.
À quelques kilomètres de là, leur chef, Barré Koivogi, dirige l'antenne de Sérédou.
Sérédou fait partie d'une sous-préfecture riveraine de la forêt du Ziama, qui couvre une superficie de 119 019 hectares. Moi qui suis le coordonnateur des activités de l'antenne, avec 64 agents forestiers, je n'ai qu'une moto aujourd'hui. Je n'ai absolument rien qui me permette d'être efficace. Un vrai problème existe en termes de forêt chez nous. C'est comment concilier développement local et protection de la nature. Il y a là un problème difficile à résoudre. D'un côté, nous sommes obligés de protéger notre environnement. Ça, c'est clair. Mais nous devons comprendre aussi que c'est seulement cet environnement qui permet à ces milliers de personnes de vivre.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle crotte-crotte. Quand il fait le caca, c'est ce qu'on appelle crotte, c'est sa crotte.
Elle a l'air bien fraîche.
Elle est fraîche. Ça, c'est la crotte de la nuit. D'accord. Quand c'est la nuit, il a fait ça, c'est pas ce matin-là.
Qui cherchons-nous exactement? Alain Devrel et Topo Gougaï de l'ONG britannique Fauna and Flore International étudient depuis 2015 les éléphants de Ziama.
Un éléphant de forêt, c'est une sous-espèce. Il y a deux espèces d'éléphants. Il y a l'éléphant de savane qu'on connaît. Et l'éléphant de forêt, c'est un éléphant qui, comme c'est bien décrit, c'est un éléphant qui vit en milieu forestier. En point de vue caractéristique, un éléphant de forêt, c'est quand même un éléphant qui est un peu plus petit qu'un éléphant de savane. Donc c'est les défenses plus courtes, parce qu'en fait, au milieu de la forêt, c'est quand même mieux de ne pas avoir les cornes, les défenses trop longues.
Et ils sont passionnants pour les voir. Et ce sont des animaux qui se reproduisent très difficilement. Donc leur vie doit être vraiment protégée. Vous imaginez un éléphant qui fait 2 ans de gestation et qui fait 6 ans d'intervalle avant qu'il ne fasse mise pas. Donc, ce sont des espèces, il faut les préserver. Donc, ils sont vraiment passionnants pour moi. Voir les éléphants, c'est comme si tu mettais la glace au niveau de ma poitrine. Oui, c'est un peu ça.
C'est une trace de ce matin qu'on vient de trouver ici. Si on prend courage, d'ici midi, on va les trouver.
Comment vous savez que c'est ce matin, la trace?
Oui. Je reconnais que c'est ce matin, parce que je suis souvent avec eux. Je connais la trace de ce matin et la trace d'hier. Je connais tout. Prenons courage, on va les recevoir.
Ici, une branche cassée, là, une ruche éventrée, le vrombissement des temps qui se délecte du sang des pachydermes, tout semble indiquer que nous sommes sur une piste.
Ici, ils se sont badigeonnés. Ils mettent la terre contre les moucherons.
Donc là, on est face à un grand trou de 2 mètres sur 2, environ d'une profondeur d'un près d'un mètre.
Ils viennent se laver là-bas. Ils viennent maintenant, à côté d'un bas-fond, là où il y a l'eau. Ils creusent, ils mettent la terre à souris. Ils mettent la boule à souris contre les moucherons.
Donc on est sur la bonne piste.
On est sur la bonne piste. Ils sont à l'intérieur.
Essayez, il n'est pas parti, il n'est parti par là. Silence, essayez, il n'est pas parti par là.
Pourquoi on fait ça? Il peut tromper parce qu'il a fait 3 jours ici.
3 jours, il s'est pris de tourner.
Donc ces traces sont un peu comme ça là. Mmh. C'est pourquoi on tourne comme ça là.
Vous disiez que l'éléphant essayait de tromper les chasseurs.
Oui, bon, il trompe les chasseurs à chaque mètre, à 10 à 20 mètres. Il fait des petites tournures. Ça, c'est inné à lui aussi. Mm-hmm. Il tourne un peu, il stationne un peu, voir la position. Et puis, donc, il a tourné quelque part, nous tromper.
Les éléphants ont raison de s'inquiéter. Ils comptent parmi les derniers spécimens de leur espèce en Guinée. Un premier comptage effectué par WWF en 91 dénombrait 118 individus à Ziama. En 2004, l'organisation Mike en compte 214, mais 15 ans plus tard, les pachydermes sont introuvables. Bareko Ivogi, le chef d'antenne du centre forestier, refuse catégoriquement de parler d'extinction.
Est-ce que vous pourriez me décrire l'écusson que vous portez?
Ça?
Celui sur votre épaule.
De l'autre côté, c'est l'insigne des osiers forêts. Vous voyez un peu un éléphant, vous voyez un arbre. Ça, c'est l'insigne des conservateurs de la nature en Guinée.
Selon les chiffres qui sont disponibles, on avait une population d'éléphants dans la zone de Ziama, d'environ 214 individus en 2006. Mmh. Aujourd'hui, on serait tombé aux alentours de 14-15 individus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, écoutez, ça, il ne faut pas prendre ces chiffres comme étant 100% réalistes. Je reconnais qu'il y a quand même une baisse, mais pas jusqu'à ce taux. Et personne ne peut confirmer que ce taux-là est exact. Parce que il n'y a pas eu franchement un inventaire fiable, si bien qu'on ne prend plus en compte le système de... C'est-à-dire que le fait que les éléphants émigrent d'un côté à un autre.
Des moyens importants ont été déployés au début des années 2000 pour préserver notamment la population d'éléphants. Oui. Depuis 2006, il n'y a plus d'argent. Oui. Et vous nous expliquez que les éléphants sont partis au Libéria et que ce n'est plus votre affaire.
Non, les éléphants ne sont pas... Le départ des éléphants au Libéria n'est pas dû à la nature du financement ou aux capacités opérationnelles du centre forestier. Le départ des éléphants vers le Libéria est une cause naturelle. Dans les années de guerre au Libéria, il y a des bombes qui éclataient. Ça pourrait être probablement la raison pour laquelle l'ensemble des éléphants ont immigré. Il y a aujourd'hui la paix au Libéria. Mais c'est naturel aussi, je dis vraiment c'est naturel, que ces mêmes éléphants retournent vers le côté où ils étaient avant.
Ces chiffres, Alain Devrel les a pourtant confirmés à 2 reprises.
Malheureusement, en 2016, on a fait notre recensement en utilisant exactement les mêmes méthodes que Mike. On n'a pas pu constater un nombre au-delà de 12 à 15 éléphants. Donc, on a répété ce même exercice en 2017 et avec le même résultat. Donc,
On aurait donc, entre 2004 et 2017, près de 200 éléphants qui disparaissent. Vous-même, vous revenez à l'instant d'une mission au Libéria. Est-ce que vous les avez trouvés?
On a trouvé les éléphants, mais pas en très grande quantité. Peut-être une vingtaine, une trentaine d'éléphants de ce côté-là. Donc, est-ce que ils sont partis plus loin? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après 2005, il y a eu beaucoup de cas de braconnage.
Pour Bareko Ivogui, c'est moins le braconnage qui pose problème que la cohabitation difficile entre les populations locales et les éléphants. Étudier ces modèles de coexistence, c'est justement le travail de Vincent Leblanc, chercheur à l'IRD.
Oui, il peut y avoir plusieurs raisons effectivement qui expliquent la baisse importante de la population d'éléphants dont vous venez de parler. Il y a d'abord une cohabitation rendue plus difficile du fait de l'arrivée importante de populations de réfugiés dans la région. Les activités agricoles se sont beaucoup développées en périphérie effectivement du parc et que les éléphants ont tendance à y sortir, comme c'est fréquemment le cas, les gens auront plutôt tendance à tâcher de s'en débarrasser. Il y a un deuxième facteur qui est à prendre en compte, qui est l'importance économique que représente l'ivoire de l'éléphant et les contextes troubles et troublés comme le sont ceux des conflits, des mouvements de population dans ce type de contexte favorisent évidemment ce type de commerce, le commerce de l'ivoire. Donc c'est sans doute une conjonction de facteurs qui peuvent expliquer la baisse drastique de la population d'éléphants toute récente dont vous venez de parler.
La progression se fait plus difficile et la jungle plus dense. Les gardes s'accordent une pause le long d'un cours d'eau dont le cours est entravé par un impressionnant barrage artisanal. L'ouvrage est constitué de lianes et de bois prolongés par des nasses destinées à recueillir le poisson. Alors que nous parlons, les gardes s'arment de machettes pour le détruire.
Venez ici d'abord, envoie la machette ici.
S'ils trouvent les gens ici, on les prenne, on les envoie à la base.
J'imagine que les populations locales ne vous aiment pas toujours beaucoup.
Oui, bon, ils ne nous aiment pas beaucoup, surtout ceux qui vivent comme ça là. Ils ne peuvent pas nous aimer.
Si les habitants ne peuvent prélever les ressources de la forêt, si l'État n'alloue pas les fonds nécessaires à la conservation, comment dès lors financer la protection des derniers éléphants sans léser les populations riveraines? Au début des années 2000, l'entreprise chinoise Forêt Forte, qui coupe le bois pour en faire notamment du contreplaqué, signe un accord avec l'État guinéen. Le projet consiste à exploiter la forêt de Ziama pour en financer la conservation. Mais 15 ans plus tard, l'activité n'a toujours pas démarré, les tractations se poursuivent et l'entreprise risque de mettre la clé sous la porte. En l'absence d'infrastructures viables, il faut 2 jours pour rejoindre Zérikoré par la route, l'écotourisme n'est pas non plus une option. Moriaba, de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, ne voit lui qu'une seule alternative réaliste.
C'est le développement des filières porteuses. À l'intérieur de la forêt de Ziama, par exemple, il y a ce qu'on appelle le poivre noir, le pipet guinéensis. Le pipet guinéensis qui est récolté à l'état sauvage dans la forêt, séché et exporté vers les pays limitrophes, le Sénégal, le Mali et autres. Alors que le pipet guinéensis, qui est le poivre, peut être cultivé. Et un seul kilo de poivre est vendu au prix minimum à 90 000 francs, 100 000 francs guinéens. Et un hectare de poivre peut te donner au moins les 1 à 2 tonnes.
9-10 euros.
Vous imaginez? 9-10 euros, vous imaginez? Donc là, c'est le lieu idéal pour ramener les espèces que les paysans iraient chercher à l'intérieur de la forêt, dans ces agroforêts, auprès du village, sans qu'ils n'aillent chercher à des kilomètres dans la forêt.
Donc entre les conservateurs qui plaident pour une fermeture totale, une exclusion totale de la forêt, et les habitants qui disent « c'est chez nous, on doit vivre, on doit exploiter », vous vous situez un peu entre les deux sur, en quelque sorte, vous plaidez pour une mise en valeur durable de la forêt.
Une mise en valeur durable de la forêt, je dirais. Dans le temps, il y a eu, dans les années 2004-2005, on a eu à élever des plants forestiers en pépinière. Nous étions très surpris de voir des paysans qui venaient demander les plants forestiers. Et ça, c'était à différentes catégories d'âge. Il y avait un plus vieux de la soixantaine. On dit, mais tu plantes un arbre de bois rouge, mais tu crois l'exploiter quand? Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants à venir.
Donc on ne verra pas les éléphants?
Bon, je ne pense pas si on pourra les voir aujourd'hui. Mmh. Parce qu'ils sont rentrés maintenant à l'intérieur, en profondeur. Si on les suit comme ça, d'ici 17h, on aura fait plus de 10 km. Mais nous, on n'est pas venu pour passer la nuit parce qu'on n'a pas les matériels de camping. Mmh. On est obligé de se retourner, rentrer au village.
Eh bien, allons-y. Okay.
Très déçus, après 7 heures de marche, nous rentrons à Sérédou, notre camp de base. À peine arrivés, les éco-gardes nous appellent pour nous annoncer l'heureuse nouvelle. Les deux éléphants se trouvent juste au bord de la route, à proximité du village. Rapidement, les habitants viennent à leur rencontre.
J'ai dit de venir, on va prendre votre photo. Vous êtes beau à voir. Ils se sont, on a passé la journée derrière vous, vous êtes beau, venez, on va prendre votre photo.
Et donc, on voit un grand et un petit.
Oui, c'est un grand et un petit. Mais ils sont tous des mâles.
Vous pensez que ça pouvait être une femelle et son petit?
Bon, c'est pas la femelle. Quand ils sont contents là, ils peuvent sortir leur bangalan là. Le cesse.
Ça, c'est nos éléphants un peu mascottes. C'est les deux éléphants. En fait, on pensait pendant très longtemps que c'était un femelle avec son petit. Et puis, un beau jour, quelqu'un a pris une photo. Ça a bien démontré que c'était en fait deux mâles. On pense que c'est deux frères, au fait, qui a perdu leur maman. Et ils se sont mis ensemble. Braconné, sans doute, oui, c'est braconné. Ces deux-là, c'est très curieux parce que eux, c'est comme s'ils sont à l'aise, plutôt à l'aise autour des villages qu'en pleine forêt. Mais ça pose quand même des problèmes pour nous parce que les éléphants, c'est une menace. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Qui peut ruiner ta vie, ça peut tuer les membres de vos familles. Et en plus, il faut dire, c'est aussi 4 tonnes de viande sur 4 pattes. Donc.
Moi, c'est Grobogi François Saifoulay. Je suis natif du village, je viens de Sibata 2.
Tout à l'heure, on est parti pister l'éléphant pour finalement le retrouver ici, juste à proximité de votre village. Et à notre tour, on a trouvé tout un champ de bananiers, enfin, une partie d'un champ de bananiers dévasté. C'est le vôtre?
Ouais, les bananiers, ça m'appartient. C'est une plantation qui appartenait à mon papa depuis quelques temps, quoi. Bon, moi-même, je suis un fan des éléphants, j'aime les animaux. Bon, c'est ma première fois de les voir, quoi. C'est un plaisir pour moi aussi de les voir. Mais ils sont là aussi, ça bouffe les bananes, ça fait des trucs, ça part dans les champs, ça fait un peu de dégâts.
Et vous estimez à combien les dégâts là?
Bon, les dégâts par an, nous pouvons estimer à une valeur de 15 millions de francs guinéens.
Donc ça fait 1500 euros.
1500 euros,
ouais. Effectivement.
Donc c'est beaucoup.
15 millions, c'est beaucoup pour nous villageois, parce que c'est grâce à ces produits que nous subvenons à nos besoins.
Sur la piste des derniers Sili, un grand reportage de Carole Valade et Raphaël Kraft, réalisation Pierre Chaffangeon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.
RFI.